Data Center. Data Center, c'est le nouveau projet enfin, qu'ils sont en train de construire à La Courneuve. Moi, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un terrain de foot, à un style forme un peu ronde, style Ligue des Champions.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour vérifier une fois de plus que ce qu'on a dit dans les 621 émissions précédentes était vrai, à savoir que la planète est fichue. Oui, cet après-midi, comme souvent quand on zoome sur un enjeu écologique, le gai savoir en a gros sur la patate. Heavy on the potato, comme avait écrit Cyril dans sa copie du bac d'anglais, il avait eu 8. Pourtant, l'idée de cette émission est née d'une réflexion joyeuse que Cyril avait eue dans le fully flatbed de la business class de Delta Airlines qui le ramenait de Vegas à Paris après son escapade U2. Une info, un chiffre qu'il avait découvert sur Fox News et qu'il avait tellement déculpabilisé qu'il avait fallu qu'il m'appelle séance tenante. « Ma puce, sans te commander, trouve-moi un téléphone satellitaire, fissa, faut que je bigophone Noël », avait-il lancé à l'hôtesse de l'air, qui lui réservait déjà une sixième coupe de moitié chandon. Off course, Mister La Carrière. Deux minutes plus tard, mon téléphone sonnait, c'était Cyril, il avait une grande nouvelle. Hey, « Hé, le vieux gauchiste, j'ai une info qui va te défriser les poils du bas. Ce qui consomme le plus, c'est pas les avions, c'est les data centers. Ils consomment autant d'électricité que le transport aérien et ça va doubler l'année prochaine, alors qu'on arrête de m'emmerder. Ma puce, champagne pour toute la business, c'est ma tournée. » À l'autre bout du fil, vous l'imaginez, j'étais perplexe.
Oui.
Est-il vrai que les data centers consomment autant d'énergie que le secteur du transport aérien? Et au fait, où se trouvent ces data centers? Combien y en a-t-il chez nous en France? Combien sont en projet? Comment ça fonctionne un data center? Pourquoi ça ne bug pas? Et surtout, y en a-t-il un entier spécialement dédié aux requêtes débiles de Manon qui passe son temps à interroger ChatGPT pour savoir à quoi ressemblera son enfant avec Pedro Pascal? Zoom zoom zen, c'est parti.
France Inter. Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour.
Quand il n'y a plus d'espoir, que l'invité qui était prévu nous plante à la dernière minute, alors qu'avec Cyril, on n'est pas en mesure de réagir ou de passer des coups de fil, puisqu'il y a OM Bergame à la télé, et qu'un match de l'OM en Ligue des Champions, c'est sacré. Quand on croit que tout est foutu et qu'on va faire l'émission avec une chaise vide, il y a Guillaume Pitron. Guillaume, vous êtes journaliste, chercheur associé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. On vous avait reçu il y a quelques mois maintenant pour votre enquête très remarquée sur les métaux rares. Mais si on vous invite cet après-midi, c'est pour vos connaissances sur l'empreinte de l'industrie numérique sur l'environnement. Vous avez d'ailleurs publié un livre à ce sujet, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, aux éditions Les liens qui libèrent. Et dans ce monde numérique très polluant, le principal coupable s'appelle Data Center. Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de saluer mes précieux comparses, Quentin Lui et Manon Mariani, responsables d'un quart des émissions de CO2 d'Île-de-France avec ses requêtes ChatGPT. Bonjour mes champions.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Alors maintenant, est-ce qu'au moins, après avoir demandé 30 fois à ChatGPT, vous savez maintenant à quoi ressemblerait cet enfant que vous auriez? On met le conditionnel, parce que pour l'instant, Pedro Pascal n'est pas au courant.
Avec,
avec
clair,
l'acteur qui est aussi votre idole. Vous savez à quoi il ressemblerait?
Oui, mais c'est moche.
Attendez,
à chaque
vous
fois
avez
qui,
essayé ça
qui met... non,
avec
non,
Pedro Pascal?
Mais non, j'ai pas essayé ça.
Ah. Avec le...
pas avec Pedro Pascal.
Elle l'a essayé avec diverses autres personnalités qu'on ne peut pas citer.
Voilà.
Guillaume Pitron, pourquoi ces data centers sont-ils devenus un enjeu économique, écologique et aussi architectural?
Économique parce que ce sont les nouvelles fermes de données de l'ère contemporaine. Il n'y a plus... on ne parle pas de céréales, on parle de données qui sont des actifs extrêmement valorisés. Et donc, c'est un enjeu économique de savoir où les stocker. C'est un enjeu écologique parce que ces data centers, on parle en français de centres de stockage de données, consomment de plus en plus d'électricité, collectivement, à l'échelle mondiale. Architectural, parce que ce sont des gros entrepôts à données, c'est pas forcément très beau. Mais il y en a des très beaux, s'il y a des concours du plus beau data center de la planète, ça existe.
Oui, quitte à les faire gros, autant les faire beaux.
Voilà, et absolument, mais j'en ai vu certains qui sont vraiment magnifiques, mais donc, c'est pas toujours beau, et donc, architecturalement, il faut bien aussi faire en sorte qu'ils interagissent le mieux possible, ou le moins mal possible, avec les hommes qui habitent autour et à côté.
J'ai l'impression que la technologie évolue et qu'on stocke de plus en plus de données sur des choses de plus en plus petites. Est-ce que avec les nanotechnologies, on va pas retrouver... Est-ce que les data centers de demain vont pas être minuscules? On peut pas rêver de ça?
Demain, c'est quand? Est-ce que c'est dans 5 ans,
dans 5
dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Donc en fait, effectivement, il y a une réduction de la taille de ces centres de stockage de données à données stockées égales.
Oui, évidemment.
Et donc, on a effectivement cette réduction qui est réelle, avec une optimisation de l'efficacité du stockage et de sa consommation électrique. Pour autant, les systèmes énergétiques... eux ne sont pas réduits, donc il reste quand même toute cette partie-là qui, elle, très importante. Mmh. Et puis surtout, on stocke mieux avec moins, mais on consomme toujours davantage de données. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond en économie et en numérique. Et aujourd'hui, notre propension à consommer toujours plus de données, les fameuses requêtes ChatGPT, eh bien en fait, elles vont plus rapidement que la capacité de la technologie à réduire ce même stockage. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est pas prêt de voir disparaître ces grosses infrastructures de l'échelle à l'échelle de la planète et encore moins à l'échelle du territoire français.
C'est la conscience soulagée après les découvertes des chiffres concernant les data centers que Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, se présente à nous cet après-midi. Lui qui croyait être responsable par l'absurdité écologique de ses nombreux sauts de puce le temps d'un week-end, Las Vegas, Séville, Ibiza, du cataclysme climatique en cours, il réalise grâce à cette émission qu'il n'y est quasiment pour rien.
En plus, lui, je plante des arbres.
En plus, vous faites pour
mais
compenser.
Quand ça, quand ?
Eh ben moi, je donne de l'argent là pour qu'on plante des arbres.
Oh, mais... oh là là. De toute façon, on n'a pas de preuves, mais bon.
Lui,
je donne de l'argent. En tout cas, c'est défiscalisé, c'est sûr.
Voilà. Il n'est donc pour rien au cataclysme climatique en cours, lui dont les seules requêtes Google, toujours les mêmes, temps de cuisson rôti de bœuf, recette béchamel facile ou Laetitia Castanu, oh, ne représentent que 0,0001% de la consommation d'électricité d'Île-de-France. Cyril, racontez-nous maintenant que vous vous sentez soulagé, les data centers, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez une cathédrale immense, mais sans vitraux, sans cloche et sans fidèles. Wow. Un bâtiment anonyme, souvent en périphérie, là où il ne se passe jamais rien.
C'est un film d'horreur, le truc.
Sont choisis par notre réalisateur. Décroissant, Ghislain Fontane. Toute notre vie est là, tout ce qu'on poste, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on sauvegarde. Bienvenue dans le monde des data centers. À l'origine, ce n'était que de simples salles de serveurs climatisées où on installait des ordinateurs géants. Ça existait dès les années 60, chez IBM ou même à la NASA.
Mais Internet a évidemment tout changé.
Oui, et à partir des années 90, tout s'accélère. Désormais, il faut stocker nos mails, nos photos, nos vidéos et puis les données des entreprises aussi, bien sûr. Et plus Internet grandit et prend de la place dans nos vies, et plus il faut agrandir ces entrepôts. Aujourd'hui, il existe près de 12 000 data centers dans le monde, dont plus de 300 ici en France. Les plus grands appartiennent à Amazon, à Google, Microsoft ou Meta, les géants américains de la tech qui ont investi l'an dernier plus de 200 milliards de dollars dans ces centres de données, car la donnée, c'est le nouveau pétrole. Et le problème, c'est qu'à eux seuls, ces data centers consomment près de 2% de l'électricité mondiale. Pour vous faire une idée, vous l'avez dit Mathieu, c'est autant que tout le trafic aérien, et cette consommation pourrait doubler d'ici l'année prochaine. Alors d'où ça sort les data centers? Et bien de là, et ce n'est que le début de cette histoire.
Merci Cyril. Guillaume Pitron, 300 data centers aujourd'hui sont donc implantés en France. Ça veut dire qu'on a tous un data center à côté de chez soi ou ils sont dans des zones très précises?
Alors, on ne les a pas tous à côté de chez nous. Ils s'en trouvent dans le centre de Paris, puisqu'on parle ici depuis Paris. On en trouve dans le 11e arrondissement, dans le Marais notamment. Mm-hmm. Mais oui, absolument.
Où ça ? Dans des hangars ?
Eh bien, en fait, ils vont être soit dans des sous-sols, soit dans des immeubles qui ont été, dont la destination a été changée.
Bah, vu le prix au mètre carré dans le Marais.
Derrière l'immeuble, il y a en fait un centre de stockage de données. Vous avez d'ailleurs des riverains qui se plaignent du bruit qui est généré par le data center. Mais souvent, on les trouve plus fréquemment dans la pleine commune, au nord de Paris. Et on va également les trouver beaucoup dans les Hauts-de-France. Et on va les trouver à Marseille. Alors pourquoi ? Parce que ça correspond en fait à une politique des communes en question qui souhaitent attirer en fait ces centres de stockage de données. Le foncier va être peu cher, ou en tout cas moins cher qu'ailleurs. L'électricité va être abondante, où le raccordement d'électricité va être possible et garanti par RTE, qui va permettre ce raccordement-là. Et puis aussi Marseille, parce que c'est l'arrivée des câbles sous-marins. Il faut savoir que tous ces centres de stockage de données traitent de la donnée qui, elle, n'arrive pas par satellite, très peu, mais qui arrive par câble. 500 câbles sous-marins qui quadrillent la planète.
Les câbles des États-Unis arrivent à Marseille ?
Non, ils arrivent plutôt par la côte ouest française.
Et pourquoi vous avez dit alors à Marseille ?
Oui, mais les câbles australiens, ils n'arrivent pas par la côte ouest.
Bien vu,
Monsieur Pitron. Du Moyen-Orient et les câbles africains, notamment certains, et puis les câbles asiatiques en général. La route qui part d'Australie passe par Singapour, remonte par le canal de Suez et arrive à Marseille. Et donc Marseille est une région, une ville, en fait, où les centres de données sont importants parce que c'est l'arrivée des câbles.
Des rencontres, elle en a fait samedi soir. Car vous avez passé un week-end people, Marie de Breuer.
Oui, je reviens de Beverly Hills. C'était les 70 ans de Kris Jenner, la maman de Kim Kardashian. J'étais invitée, bien sûr. Je suis arrivée direct. Happy birthday, Kris. Bon, c'était sa fille Chloé. En même temps, c'est fou, quoi. La chirurgie esthétique a fait des miracles sur le visage de Kris, quoi. On dirait sa fille. On dirait qu'elle a accouché d'elle-même. quoi. Il n'y a pas une ride, pas un ridule, c'est lisse. Bon, par contre, l'intérieur du corps de Chris a bien 70 ans. Elle nous a lâché des perlouses. Oh, oh, ça m'a cramé les narines. Les pattes de Levallois-Perret, le bordel. Oh, là, là. Et puis alors, quand elle a soufflé les bougies et que c'est pas que de l'air qui est sorti des poumons, hein. Un molar, mon pote. J'étais au premier loge. Première loge, je peux vous dire, j'ai pas pris de la part de gâteau à la tarte aux fruits de rouge. Je ne sais même plus c'était quoi le gâteau. No, thank you. Le thème de la soirée, c'était James Bond. Moi, évidemment, j'ai mis ma tenue de James Bond Girl pour honorer les actrices françaises. Glamour, tout en gardant mon côté humour. J'étais en Sophie Marsouin. Voilà, Marsouin, vraiment, une robe en peau de Marsouin et tout, ça m'a coûté un bras. Hein. Et au Marsouin, bah, ça lui a coûté sa peau. Bon, après, c'est les States, hein. No one cares about the animals. Mais il a fallu 6 Marsouins, quand même. C'est étonnant. C'est étonnant parce que la robe était fendue, très très fendue, jusqu'à Madua Lipa. Mon duo de lèvres en espagnol. Bref, il y avait... Madua Lipa. Il y avait plein de goodies. Oui. James Bond, du coup, des briquets, des jetons de poker. Et en cadeau, tout le monde a eu un gun. Moi, je croyais que c'était un faux flingue, quoi. Genre, t'appuies sur la gâchette, il y a un petit fanion qui sort, genre, HB Chris, you're killing it. Et bah, pas du tout. J'ai malencontreusement tiré sur un des serveurs. Heureusement, pour moi, personne n'a capté. C'est les States. No one cares about poor people. C'est ce que m'a dit Jeff Bezos. Bah oui, c'était chez Jeff, la fête de Chris, le patron d'Amazon. Bon, j'étais un peu attaqué au coin trop. Je lui ai tenu la jambe une demi-heure en lui disant que j'étais hyper déçu de Comedy Class sur Amazon Prime. J'étais là du, you know, Eric et Ramsey. Hein, il te sera un gars comédien, very à l'ancienne. Do you know la tour Montparnasse infernale? Non. Ah, l'émission is not good, Jeff. Hein. J'ai enchaîné en lui expliquant que j'avais jamais reçu mon colis de multiprise. J'étais là, where is my plug, Jeff? Where is my plug? Comme si c'était lui qui s'occupait des colis, quoi. N'importe quoi. Le max de la soirée, c'était le concert privé de Bruno Mars. J'ai pas vraiment de blague là-dessus, à part l'affreux constat qu'on peut être richissime et avoir des goûts musicaux à la merde. C'est à ce moment-là que la police est intervenue. C'est moi qui ai ouvert la porte. J'ai cru que c'était les stripteaseurs que j'avais bookés en surprise. J'étais là, show me your slibar, les policemen, wouh. Alors que j'avais demandé des firemen. Qu'est-ce que je suis con, n'importe quoi. Me rendant compte de mon erreur, je comprends que ce sont de vrais policiers. Oh là là, j'ai mis les bras en l'air. Mister the Sheriff, it's not me qui shoot le serveur. It's Chris Jenner, she give me the gun. Je pensais c'était un goodies, quoi. Après, j'ai un gros trou. Voilà, j'ai juste un flash de moi qui propose à la chanteuse Adèle de faire un mètre de shot et lui dire, viens, on va lui apprendre à chanter à l'autre Bruno Mars. Voilà. Mais je sentais que j'étais la French Touch quand même à la soirée. Hein. Chris voulait qu'on fasse la fête à la française. Alors, pour finir, j'ai lancé une chenille. Oh, bah, j'ai regretté direct. Hein. Oh, je me suis retrouvée en sandwich entre deux producteurs de Cinoche. Deux doigts devant, un derrière. J'étais là. J'ai dit chenille. Not bowling, you guys. À deux doigts d'appeler Mediapart. Hein. Enfin, à trois doigts. Bref, sacrée soirée.
Merci Marie et la bise évidemment à Chris Jenner. À suivre, à quoi servent donc les ovniports qu'on construit un peu partout sur la planète? Quentin est d'ailleurs allé vous demander ce que vous en pensiez. On parlera aussi de la notion d'égalité, notion qui fait débat. Le temps de s'écouter, tiens, A Tribe Called Quest. Can I kick it? Hey yo, he's having a ball. And you know, they asked me to get on the mic. And they asked me, can I kick it? Word. Can I kick it?
Kick it. to all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what live was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the tribe flies high like a dove.
Florilège, Mathieu Noël sur France Inter.
Bonjour Philippe Baudouin.
Et bonjour et merci de me recevoir.
Et bien merci d'être avec nous. Vous êtes de la maison, comme on dit, puisque vous êtes auteur et réalisateur à France Culture et vous êtes aussi maître de conférences associé en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Saclay. Vous y enseignez l'histoire des techniques. Vous êtes également membre du centre de recherche en design de l'ENS Paris-Saclay et vous avez une passion, les phénomènes inexpliqués. Vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Le dernier en date et pour lequel on vous invite cet après-midi, Atlas des lieux extraterrestres qui vient de sortir chez Lapérouse éditions, des lieux bien réels qui existent sur Terre, parmi eux des ovniports, des sites d'atterrissage pour d'hypothétiques soucoupes volantes. À travers cet exemple, c'est un voyage passionnant que vous nous conviez, vous allez nous guider. Partons donc maintenant à la découverte de ce qu'on appelle donc les ovniports. Alors moi j'ai découvert le mot en préparant l'émission, à quoi ça ressemble un ovniport?
La plupart du temps c'est une plateforme, un espace dédié dans l'espace public justement, bien délimité, vraiment au premier degré ou avec humour, ça dépend. En l'occurrence, le premier en France à avoir été construit, le seul et unique à ma connaissance, il date de 76. Il est à Arès, dans une ville, dans le bassin d'Arcachon, où justement l'idée c'était d'avoir passé commande à un électricien féru d'ufologie et d'astronomie, et tout ça avec l'approbation de la municipalité.
Pas avec les fonds municipaux quand même.
Non, une initiative privée, mais qui a permis aussi de retrouver une forme de dynamisme local au niveau du tourisme, donc ça c'est très intéressant, avec beaucoup d'humour. Il y a une plaque, une sorte de stèle devant, en marbre, où vous avez en gascon, je précise, nous vous attendons toujours. Cette phrase qui est quand même exceptionnelle.
Alors, surtout en gascon. Alors,
mais quel est le but de ces ovniports? C'est de préparer vraiment l'arrivée des extraterrestres avec des pistes d'atterrissage?
Je pense que derrière l'humour, en tout cas pour cet ovniport à Arès, il y a un espoir, il y a aussi une forme de sensibilité, d'ouverture d'esprit, mine de rien, à travers le sourire qui est proposé, cette forme d'humour, de dire pourquoi pas? Pourquoi ne pas aussi imaginer des espaces dédiés à l'ailleurs, sur Terre, en les, on va dire, matérialisant concrètement avec de la pierre.
C'est philosophique, en fait.
Oui, complètement. Moi, je pense que c'est aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte, bien au-delà de la simple croyance ou d'une illusion, une forme d'hallucination collective. Réellement, il y a une démarche artistique, mais une démarche aussi presque politique, de dire, ouvrons la communauté des terriens à l'espace, à l'ailleurs et à l'intersidéral, pourquoi pas.
Alors, parfois, sur le plan technique, en tout cas, l'homme est un peu présomptueux parce qu'il existe une station de réparation pour ovnis qui se situe au beau milieu du désert californien.
À Ocotillo, effectivement. Ouais, et c'est un certain Coyote, un réparateur, un ancien mécano surnommé Coyote, qui participe d'ailleurs régulièrement au festival Burning Man et qui, dans cet endroit du désert en Californie, accueille les rares touristes qui passent par là pour leur raconter ses histoires, ses observations. Il a pour habitude, avec son vidéoprojecteur, la nuit, de projeter des films sur l'espace, sur les ovnis, les extraterrestres.
C'est génial, enfin, tout ça c'est bon pour le tourisme en fait.
C'est ce qu'on appelle le tourisme ufologique, effectivement. Ouais. C'est une forme de tourisme qui a vu le jour à partir de la fin des années 80, début des années 90, et qui a été, on va dire, rendu possible notamment grâce au succès de la série X-Files.
Ah bah oui.
Qui a énormément contribué à justement pousser les gens à devenir quelque part des chasseurs d'ovnis et d'extraterrestres.
Ah, ça me fait penser quand même beaucoup à la menace fantôme, moi, de Star Wars, où ils font la course de vaisseaux spatiaux. Ils réparent des ovnis.
Ils proposent de réparer. Il accumule et il fabrique aussi des soucoupes volantes, surtout, qu'il présente comme authentiques. Mais c'est avant tout un lieu d'attraction, un lieu de divertissement. Et il propose de faire des tours de ces fameuses soucoupes sur roulettes.
Qui roulent.
Oui, forcément, c'est intéressant. Pour l'instant, il n'a pas encore réussi à utiliser la propulsion dans les airs. Mais par contre, un Burning Man. Régulièrement, chaque année quasiment, il se rend là-bas et il propose aux participants de tester ces machines.
Mais en fait, c'est ça ma question. Il y a quoi dans la majorité de ces ovniports ? C'est des musées ? C'est inhabité ? C'est des monuments où il se passe quand même des choses ?
La plupart du temps, c'est avant tout soit effectivement une sorte d'hommage, de clin d'œil à l'ailleurs, à l'espace, qui est fait avec un espace, une sculpture, un objet, un monument, voire même un mémorial, ça peut arriver. Là, en l'occurrence, à Arès, c'est une soucoupe métallique qui ressemblait étrangement dans sa dernière version à celle de la soupe aux choux des années 80.
Modèle moderne.
Voilà, effectivement.
À la pointe.
Délicieusement kitsch. Ouais. Et puis, vous avez, par exemple, l'étoile de l'espérance à Catchy, en Argentine, qui a également une aire d'atterrissage, où là, on est vraiment sur un tout autre projet. C'est un immigré suisse, à l'époque, qui s'est installé là-bas, et qui, entre 2008 et 2012, a réalisé à partir de pierres, de couleur blanche et de couleur ocre aussi, 12 énormes étoiles au sol, pour attirer à lui, donc il y avait réellement une croyance pour attirer à lui des visiteurs de l'espace. Et à force de bras, de main d'homme, il a construit ça avec quelques amis. Et c'est quelque chose qui est préservé aujourd'hui et inscrit au patrimoine régional de cette région argentine.
Comme ces centaines de Français qui, à l'époque, étaient tombés sous le charme de Raël, il a donné toutes ses économies à la collectivité des soldats de Fontanus, la secte transhumaniste fondée par notre réalisateur Ghislain Fontana et qui promet à ses adeptes un avenir radieux sur Mars. Sur Mars, tu auras un circuit de cartes pour toi tout seul, avait promis Ghislain à Quentin. Mais d'abord, ce week-end, tu vas aller à Rennes récolter des fonds au Salon du Paranormal où ça grouille de potentiels donateurs. Quentin, c'est donc à Rennes que vous avez réalisé ce micro-trottoir.
J'ai passé une partie de ce long week-end et il se trouve que, hasard du calendrier, samedi et dimanche, il y avait effectivement le salon bien-être, médecine douce et art divinatoire de Rennes.
Bonjour, je m'appelle Eric, j'ai 61 ans et je vais présenter à 16h une conférence sur les adduptions. Les adduptions, c'est les enlèvements par extraterrestres.
Il me dit qu'il ne peut rien me dire de plus avant cette conférence, qu'il garde ça pour tout à l'heure. Donc en attendant, je discute un peu dans les allées avec notre mot du jour.
Ovniport.
Ovniport.
C'est quoi ? Je sais pas moi, c'est un aéroport pour les ovnis.
C'est ça, bah c'est clairement ça.
Pour vous, ce serait quoi un bon ovniport ? Qu'est-ce qu'il faut dedans ?
De la bonne nourriture française pour accueillir les aliens, c'est pas mal.
Ouais, de la place parce que c'est des gros engins quand même apparemment. Hein.
Ah, des traducteurs quand même serait intéressant.
Mais de quelle langue ?
Ah bah ça c'est compliqué, ouais.
Ouais, c'est la bonne question, mais là je m'installe dans une salle qui doit bien contenir 300 personnes. Eric, qu'on a croisé juste avant, s'installe.
Ah. Messieurs, bonjour. Il y en a que je retrouve. Voilà. Alors, je vais prendre une chaise, un tabouret. En fait, il y a quelques années, on va dire il y a 30 ans, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper cartésien, je n'étais absolument pas dans la spiritualité, les ovnis, les trucs comme ça, c'était vraiment pas mon truc.
Ouais, alors cartésien, il l'a peut-être été un jour, mais voilà quand même son anecdote. Il a été cascadeur de moto et a établi des records dans les années 90. Il nous raconte qu'il a fait l'expérience d'une mort imminente, où il s'est dissocié de son corps, et pour lui, il y a un lien entre les EMI, on avait fait une émission à ce sujet, et les enlèvements extraterrestres. Eric continue son anecdote.
Quelques temps après, je m'entraîne en moto pour un deuxième record que je devais faire un peu plus tard. Au moment où je m'entraîne, il y a un crossman qui arrive à ma droite et qui m'écrase le pied droit. Et donc je ne peux plus poser le pied, donc il y a le SAMU qui arrive. Bref, on arrive là-bas, il me dit on va faire une radio, tout est bien, on va aller faire une radio. Et là, ce qui se passe est juste incroyable. Pardon. Ça a changé ma vie. Parce que cette radio a vu que j'avais quelque chose dans le pied que je n'imaginais même pas, c'est-à-dire comme une puce que j'avais dans mon pied droit. Alors j'ai des émotions parce que c'est la première fois que j'en parle en public.
Ouais, alors le truc c'est que j'ai vérifié, il fait un tour de France des salons du genre, Eric, et j'aimerais bien savoir quelle autre histoire il a raconté pour la première fois au salon du bien-être de Douai en janvier dernier. On n'est pas là pour se moquer, il a le droit de témoigner. Je discute maintenant, en sortant de la salle, avec Cathy, qui a assisté à la conférence. Je lui demande si c'est une bonne idée de construire des ovniports.
Je sais pas, moi je dis qu'on doit s'ouvrir à tout, s'intéresser à tout, arrêter de croire effectivement qu'on est les seuls vivants sur cette planète.
Et pour vous, ils seraient même parmi nous, les extraterrestres ?
Je pense que oui, ils sont parmi nous. Par contre, sous une forme humaine. Mais au niveau du regard, c'est pas du tout le même regard, ni le même visage. Nous, on a des visages avec des ridules, des rides. Eux, ils ont des visages très transparents. Et un regard vraiment très droit, où il n'y a pas d'expression. C'est très figé.
Pour elle, de toute façon, on nous cache un truc.
De toute façon, la CIA, ils en parlent. Il y a combien d'aviateurs qui ont vu des extraterrestres qui étaient en train de voler à leur droite ou à leur gauche. Seulement, ces gens-là, ils n'ont pu parler qu'une fois qu'ils étaient en retraite. Demain, on annonce à tout le monde que les extraterrestres existent. Je peux vous assurer que tout le monde va s'affoler. Hein.
C'est pas faux. Ma dernière rencontre, c'est Audrey. Elle montre une vidéo à un petit cercle qui a l'air passionné. Que fait-elle dans la vie, Audrey ?
Je suis assistante de direction.
Et alors, vous avez votre portable dans la main ?
Alors, j'ai réussi grâce à une application qui répertorie toutes les caméras de surveillance de sécurité du monde entier.
Okay.
Et je me connecte le soir quand j'ai rien à faire ou que je suis devant la télé. Et je regarde les caméras de surveillance du monde entier, en fait. Et je surveille.
Et alors,
voilà.
Vous avez...
Et j'ai réussi à filmer sur une caméra de surveillance à San Francisco le 1er novembre l'arrivée d'un ovni. Jusqu'à son redécollage.
Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? Parce qu'elle nous montre son portable. Bien sûr, on ne voit pas grand-chose. Alors. Mais une sorte de plage sur laquelle un objet lumineux bouge légèrement, un peu comme un feu qui se répand et envoie des morceaux de feu.
Alors là, c'est quand il redécolle, là. Regardez, il balance comme des étincelles. Il se dédouble. Et après, il se sépare pour repartir en sous-marin, en OSNI. Objet sous-marin non identifié.
Allez hop, encore un nouveau mot, ça c'est pour moi, c'est offert. Pour Audrey, il faut sortir de l'ignorance.
Non, pour moi on n'est pas seul, on est surveillé.
Par une autre espèce que nous ?
Oui, les petits gris, oui.
Les
petits gris.
C'est quoi ça ?
C'est une race extraterrestre, ceux qui sont représentés un petit peu partout dans le salon. Enfin, ils sont petits, et ils ont les grands yeux noirs. Enfin, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est une race extraterrestre. Il y a les Pléadiens, il y a les Arthuriens, il y a les Montres religieuses, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Apparemment, il y en aurait 69.
Et c'est laquelle votre préférée ?
Les petits gris. Je pense qu'ils nous étudient, oui. Et ils font des abductions, donc des enlèvements, pour étudier la race humaine, en fait.
En écoutant Audrey et les personnes rencontrées dans ce salon à Rennes, je me dis que les ovniports, finalement, c'est peut-être pas pour eux, les extraterrestres, qu'on les construit, mais pour nous. Parce qu'entre le ciel et la Terre, il reste un espace qu'aucune science ne semble combler, celui du doute et l'envie d'y croire.
Bonjour Darin McMahon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes américain, vous êtes prof d'histoire européenne au fameux Dartmouth College aux États-Unis et vous êtes exceptionnellement de passage ici. On est très heureux de vous accueillir dans Zoom Zoom. Il y a quelques années, vous aviez publié le remarqué Fureur divine, une histoire du génie et vous revenez aujourd'hui avec Égalité, histoire d'une idée insaisissable qui vient de paraître chez Flammarion. Vous partez à la recherche des origines de l'égalité, un voyage assez passionnant sur une notion qu'on croit connaître mais qui se révèle finalement, comme vous l'écrivez, assez insaisissable. Ensemble, on va quand même essayer de la saisir un petit peu. Vous dites, Darin McMahon, que l'égalité peut impliquer une part d'inégalité, de hiérarchie et même d'exclusion. Comment c'est possible, ça ?
Oui, en fait, ce que je dis souvent, c'est que l'égalité, c'est un concept de comparaison. Donc, quand je dis que toi et moi, par exemple, sont des égaux, il faut choisir des points en commun. On peut dire que tous les deux sont des hommes, tous les deux sont n'importe quoi, des hommes de même sang, de même couleur, de peau. Les êtres humains ont choisi beaucoup de choses. Mais ceux qui n'ont pas ces qualités-là ne sont pas des égaux.
Ils sont exclus.
Donc, de dire que nous sommes des égaux, c'est de créer un cercle des égaux et de mettre dehors les exclués.
De Pierre Rosanvallon qui dit que l'égalité est un idéal exigeant qui nous met sans cesse en défaut, ou de John Scott pour qui l'égalité dit toujours qui est inclus et qui ne l'est pas, vous vous sentez proche de quelle définition ?
Bon, le deuxième en fait, et je suis d'accord avec John Scott dans ce sens-là, Absolument.
C'est le sens d'une égalité qui forcément exclut. Il y a des cercles, alors parlez-nous de ces cercles d'égalité. Oui. Dès qu'on parle d'égalité, en fait, on inclut certaines personnes, mais on en rejette de facto d'autres.
Et ça a fonctionné comme ça depuis le début, avec les Grecs, c'est pareil, les chrétiens. Donc à mon avis, c'est toujours le problème. Même maintenant, quand on parle de l'universalisme des êtres humains, ça implique que les pas-êtres humains, c'est-à-dire des autres animaux de la planète, sont sous notre domination.
Vous dites au début de votre livre que lorsque vous avez commencé à travailler sur le sujet de l'égalité, la plupart de vos interlocuteurs vous parlaient d'inégalité. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, ça?
Oui, c'était marrant. En fait, je suis allé en Suède pour donner une série de conférences et le titre de mes conférences était l'histoire de l'égalité. Mais en fait, les gens qui se coupaient de moi changeaient le nom, donc c'était l'histoire de l'inégalité. Et je me suis dit, alors, même les Suédois ne peuvent pas imaginer l'égalité, nous
c'est
avons
foutu,
un problème.
Oui, c'est vraiment foutu.
Est-ce qu'on croit encore aujourd'hui à l'égalité?
Écoutez, je crois que nous vivons dans une période très difficile pour l'égalité. Nous avons vu, après une période de compression pendant le XXe siècle, l'émergence des inégalités très très fortes. Et donc... c'est une espèce de foire, mais c'était là, il y a pas longtemps. En fait, j'aime bien faire la référence à Martin Luther King qui a dit plusieurs fois que l'arc d'histoire morale tend vers la justice, c'est-à-dire vers l'égalité. Cette même phrase, président Obama a utilisé 33 fois pendant son mandat. Alors, il y a pas longtemps, en fait, les gens croyaient en l'égalité, la possibilité de se répandre et de faire plus. Mais nous avons perdu ça et c'est pour ça que je veux en fait investiguer le mot, le concept, l'histoire pour pouvoir le réimaginer pour l'avenir.
Vous revenez d'ailleurs sur cette notion d'égalité issue de la Révolution française. Elle a pu effrayer par la suite des penseurs comme Tocqueville, Marx ou Nietzsche. Pour quelle raison?
Pour quelle raison?
Pourquoi ça faisait peur, l'égalité?
Oui, en fait, il y a forcément l'exemple du terreur. Et en fait, pendant la terreur, c'était le moment dans lequel les Jacobins forçaient la question de l'égalité de plus fort. Donc, pour beaucoup de gens, il y avait une relation directe entre les deux. Les Jacobins même s'appelaient le guillotine, la faux de égalité. C'était une façon littérale de faire l'égalité, de niveler.
Et donc ils ont fait beaucoup de mal au concept d'égalité, quelque part, en allant trop loin de ce côté-là, et avec évidemment la guillotine.
Exactement.
Ça a marqué les esprits quelque part, y compris des philosophes.
Absolument. Et même quelqu'un comme Tocqueville, vous avez invoqué, il est allé aux États-Unis pendant le 19e siècle. Il a vu une société en train de bouger, une des endroits les plus égales pendant le 19e. Et il avait peur de ça, mais il savait que, en fait, ça, c'est le futur. Le développement graduel, il dit, de l'égalité des conditions est un fait universel, est un fait providentiel. Ça va venir. Donc, il faut le nuancer, il faut le contrôler peut-être, mais ça va venir.
Merci Darine McMahon d'être passée nous voir. On revient dans quelques instants pour un Zoom Zoom test spécial mot de Jones avant d'étudier nos routines beauté avec une spécialiste du sujet. Manon Marini nous enverra aussi évidemment sa pièce jointe. Tout ça après Le Frérot de Philippe Catherine.
Frérot, alors comme ça t'es plus mon frérot. On va quand même pas renouer là-haut, dans le grand pays blanc.
Quand on aura 200 ans,
où on n'est pas sûr de trouver du blanc et de la beuh pour parler comme avant. Non, rien n'est comme avant, ça change tout le temps. C'est ça qui est effrayant. Non, désolé, je sais que c'est des mots de daron. J'ai l'impression que tu me vois qu'en fraction, alors que je suis ton frérot.
Et peut-être que c'est fou.
C'est pour la vie qu'on est des frérots. Ça peut pas se kéblo sans un mot. Que pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. L'histoire des hommes bégaye. Il est humain de tuer un homme. Mais inhumain de ne pas lui dire pourquoi. Je sais pas qui a dit ça. Je crois bien que c'est moi à toi. Frérot, alors comme ça t'es plus mon frérot. C'est comme si on m'avait tiré dans l'eau. Même pas en m'appelant. Putain, tu m'appelleras quand tu seras réglo. Par l'oreille tu feras mine de boire de la croûte. Non, rien n'est comme avant. Ça change tout le temps. C'est ça qui est excitant.
Les meilleurs moments sur France Inter.
Les ados qui vous expliquent la vie, personnellement, je connais. J'ai mon fils à la maison et Manon au bureau.
Je porte la culotte, c'est moi qui pilote.
Ouais, c'est toi qui pilote, mais c'est encore moi qui présente cette émission. Alors si tu veux bien, tu vas me baisser cette musique, tu vas venir dans le salon et on va jouer au Zoom Zoom Test pour savoir justement si tu es encore si jeune que ça ou si tu fais juste bien semblant. Puisqu'aujourd'hui, je vous propose un quiz dédié au parler jeunes. On va jouer avec le lexique de la Gen Z et on va vite voir qui autour de cette table est encore dans le coup et qui au contraire fait crari. Et tiens, justement, on commence avec cette expression « faire crari ». Qui signifie d'après vous « faire pitié »,« faire sale » ou « faire semblant » ?
C'est « mais non ».
Quentin, vous devrez avoir le plus vieux d'entre nous. Bonne réponse de Manon Marianne. Effectivement, réponse
c'est
faire crari. C'est faire genre, soit faire semblant. Mm-hmm. Mise en situation, Manon, arrête de faire crari, t'es comédienne. On a tous entendu l'autopromo pour la Déloc à Marseille.
Oh, bonne mère.
Oh mon Dieu.
Pas étonnant que vous soyez...
Cet accent était sublime.
Arrête, c'est pas vrai.
Elle insiste. Pas étonnant que vous soyez la ramasse sur les expressions de jeune Manon. Je rappelle que votre single Caresse du désir est sorti il y a 18 ans maintenant. Voilà. Et qu'aujourd'hui, vous boitez pendant 4 jours après une séance d'abdos fessiers et vous demandez à ChatGPT à quoi ressemblera votre progéniture. Quant à vous, Quentin, inutile de faire oui de la tête en pouffant, ce n'est pas en imitant Vianney que vous allez renouer le contact avec la Gen Z.
Je suis une cruche.
Personne n'a jamais dit le contraire. Mais attention, mes deux ringardos, je sens que je vous ai piqué au vif. Normalement, quand la Marianoche commence à avoir ce regard noir, c'est qu'elle a passé un trop long moment avec Pierre Courade, voire pire, qu'elle a rêvé de lui. Le jeune dirait alors de Manon qu'elle est grave bleue, yombe ou calage blaze.
B. Calage blaze.
Ah,
mais
c'est... Alors Manon, c'est vrai que la question portait grave sur elle. Vous sentez grave bleu là, par exemple.
Bah, je sais pas.
Bleu, c'est doux, c'est.
Ouais, très bien. Et vous,
moi,
vous pensez
que
c'est yombe qui voudrait dire quoi ? Vous ne savez pas, mais c'est au hasard.
Oui.
C'est une bonne réponse de Quentin, réponse B, comme B de yombe. Et oui, mes petits galopins, ça vous coupe la chic. It cuts you the cheek. Yombe signifie énervé, en colère, saoulé par quelque chose ou quelqu'un. Par exemple.
Pierre Courage.
Voilà, par exemple, lui, par exemple. Mais c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est Quentin. Lui aussi fait crari avec ses Balenciaga toutes neuves et ses baguilles, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il était égérie Jules pour le bassin à Lançonnet. Et tout ça, pourquoi ?
La bouillarde !
Mais oui, on connaît notre Quentin. Ma grand-mère dirait qu'il est un fieffé canaillou porté sur la gaudriole. Mais comment dirait ton petit cousin ? Qu'il est un fieffé PDG qui dette ça ? Un sacré BDH d'écharpe ou un pélo qui engraine ?
Ah, du coup.
Ah du coup, bah oui, parce qu'on en a parlé.
Vendeur de go.
Mais Manon, réfléchissez peut-être.
Les trois ?
A et B ?
A et C, c'est une bonne réponse de Quentin. Alors oui, un BDG, on l'a vu. Alors non, c'est pas, dans le cas présent, BDG, c'est pas bouffeur de gras, même si ses trois lettres sont gravées sur le médaillon d'Andrequin en plaqué or manège à bijoux qu'a reçu Cyril pour ses 50 ans, ainsi qu'une carte de fidélité Point Soleil valable dans toute l'île de France. Non, le BDG, on l'a vu, c'est un bandeur de gadjis. Chicos, non. Et notre jeune ami, oui, je dis jeune parce que quand on s'habille en 14 ans, on reste jeune, est aussi un pélo qui engraine. Comprenez, un malandrin qui cherche des noises, quoi. Un loubard toujours prêt à en découdre. Et pour être complet, afin de satisfaire l'appétence de nos auditeurs pour le plaisir informatif, une BDH est une bandeuse d'hommes, en d'autres termes, une gourgandine. Et je vous laisse le soin de deviner qui fait partie de cette team dans le studio. Un indice, son body count au cours Florent rendrait jaloux Dominique Besnéard. Car la Marianoche, oui, c'est d'elle dont on parle, ne fricote pas avec n'importe qui. Et surtout, vous pouvez enlever la musique qui n'a plus aucun sens, surtout, elle ne fricote qu'avec... Alors, je vais reprendre ma phrase, du coup. Oui. La Marianoche ne fricote pas avec n'importe qui et surtout pas avec un NPC qui est, comme chacun sait, ou en tout cas comme chaque jeune sait, Une no personality creature, une créature sans personnalité. Un no point communicating, aucun intérêt de communiquer. Ou un non-playable character, un personnage de jeu vidéo sans intérêt.
C.
Ah ouais, ça doit être ça. B.
Vous dites B, mais vous êtes presque déçu de dire B quand même.
Bah ouais, mais je le dis.
Imaginez
quand même
que ce soit la bonne réponse.
Bah peut-être.
Ça serait
j'y crois.
Un sacré retournement dans ce quiz. Mais non, pas de retournement, c'est une bonne réponse de Manon Mariani. Réponse C. Pas de NPC pour Manon ou de PNJ, personnage non jouable en français, ce perso sans intérêt dans un jeu vidéo. Si donc, au détour d'une discussion, votre ado vous traite de NPC ou de PNJ, il vous signifie qu'à ses yeux, vous n'êtes qu'un personnage secondaire de sa vie, voire un figurant dont tout le monde se fout. C'est à ce moment-là que, personnellement, je conseille de lui expliquer à quel point c'est simple de modifier le bénéficiaire d'une assurance vie. Vous verrez, le PNJ reviendra assez rapidement le premier rôle. Et en parlant de premier rôle, on ne peut pas conclure ce quiz sans une référence à notre rédacteur en chef, qui dans quelques années sera lui aussi confronté à l'insolence de ses enfants devenus ados. Un soir, alors qu'il se préparera pour sortir en écoutant sa playlist « L'orchestre de Radio France joue Michel Sardou », qu'il ajustera devant le miroir la symétrie de son pendentif d'androquin, ses enfants riront de lui jusqu'au moment où il enfilera son vieux sweat French Touch, qui avait été tellement à la mode au début des années 2010.
Il le met plus.
C'est alors que l'aîné dira « Papa, tu peux pas mettre ça, c'est grave chuggy ». Contrairement à Cyril, dont la mandale est partie avant même qu'il devine le sens de cette expression de jeune, essayez de réfléchir et dites-moi, quand on dit d'un vêtement qu'il est chuggy, ça signifie qu'il taille trop large, qu'il taille trop slim ou qu'il est ringard.
C.
B, peut-être.
Une fois de plus, Quentin, je vous sens porter la réponse B par défaut.
Non, non.
Et ce qui fait que là, ça serait vraiment plus qu'un retournement, ça serait incroyable que ce soit la bonne réponse.
Mais c'est la bonne réponse parce que je pense que la mode est au loose.
La mode est au loose, effectivement. Et donc, trop slim, trop serré, ça ne plairait pas aux jeunes. Et ça serait donc chuggy.
Peut-être.
La bonne réponse était évidemment la réponse C. Bravo Manon, il est tout simplement ringard.
Méchant.
Il y avait pourtant un indice, on parlait du sweet French touch de Cyril. Chuggy se dit de quelque chose de désuet, de démodé ou de simplement pas cool. Les Gen Z l'utilisent beaucoup pour se moquer des habitudes des millennials et a fortiori des personnes nées sous René Coty. Victoire du teensplaining et défaite de Quentin. Victoire de Manon, bravo.
Merci.
Bravo Manon, vous êtes la plus jeune d'entre nous.
C'est quoi le score?
Vous aviez 3-2, moins
Quentin.
Déjà.
3-2. 3-2, tout simplement. Bonjour Séverine Lafaye, vous êtes donc dermatologue, membre de la Société française de dermatologie et du conseil scientifique de la Société française des lasers en dermatologie. La mode du skincare est-elle sans danger? Quelles précautions faut-il prendre? Vous allez tout nous expliquer. Et est-ce que, au cours d'une vie, une peau peut évoluer? Genre, est-ce que quelqu'un qui avait la peau grasse peut avoir une peau sèche et inversement? C'est des choses qui.
Oui, une fois qu'on a... bien sûr, puisqu'il y a un facteur hormonal et donc on sait que, voilà, au moment de l'adolescence, voilà, les hormones sont à fond et donc vous allez avoir au niveau sébacé, pas mal de kystes, de petites lésions d'acné, etc. Ça peut fluctuer au cours de la vie en fonction des hormones, effectivement. Ouais.
Est-ce qu'un homme, par exemple, peut prendre les crèmes de sa femme et vice-versa?
Alors, vous risquez pas des choses dramatiques, puisque vous me disiez justement, vous appliquez la crème de votre ami.
Un petit secret livré en antenne.
Il n'y a absolument pas de souci. Simplement, il faudra vérifier si vous n'avez pas une peau trop réactive, si elle s'applique de l'acide rétinoïque ou de l'acide glycolique sur la peau et que vous avez un eczéma, notamment autour des paupières. Vous risquez de vous retrouver comme un poisson lune le soir.
Est-ce qu'il y a des différences aussi en fonction de la couleur de la peau?
Alors, la couleur de la peau, en fait, c'est surtout, nous, on appelle ça le phototype. Et donc, en fait, il y a certains phototypes qui ont plus tendance à faire des taches, d'autres phototypes qui ont plus tendance à faire des rides, d'autres... voilà. Et donc, en fait, en fonction du phototype, il faudra privilégier tel ou tel type de principe actif.
Il faut parler aussi d'un sujet qui me tient à cœur, j'en parle souvent dans cette émission, le collagène. On en trouve maintenant en poudre, en gélule, en crème. À quoi ça sert? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous dire, au micro de France Inter, que c'est assez inefficace?
Alors, le collagène, on en trouve dans tout. Quand vous mangez des œufs, vous avez du collagène, etc. Effectivement, on en a besoin, on en a dans tous nos tissus, les articulations de la peau, etc. Maintenant, on n'a pas besoin particulièrement d'en apporter plus. On en a dans notre alimentation. En appliquer sur la peau, c'est agréable parce que c'est filmogène. Voilà.
Filmogène, ça veut dire quoi?
On va dire que c'est agréable quand vous le touchez, c'est agréable pour la peau, et donc voilà, vous avez un côté sweet, si vous voulez. Donc, voilà.
À partir de quel âge il faut commencer à prendre soin de sa peau?
Moi, je pense qu'il faut prendre soin de sa peau dès que vous arrivez à l'âge de, je sais pas, 15 ans. En fait, il faut prendre soin de sa peau tout de suite, dès qu'on voit qu'il y a des problèmes... Non, mais prendre soin de sa peau quand on a, par exemple, de l'acné. On ne va pas laisser une patiente avec de l'acné ne rien faire, sinon vous allez avoir des cicatrices. Donc, il faut s'en occuper quand on voit qu'il voilà, y a des choses qui commencent à apparaître, qu'on ressent des tiraillements, des choses comme ça. Donc, oui, il faut s'en occuper si on a de l'acné, oui, il faut s'en occuper tôt si on a de l'eczéma. Mais par contre, si vous me parlez de vieillissement, etc., oh, bah là, il faut bien attendre au moins 35 ans voilà, pour mettre des principes actifs qui sont contre le vieillissement. Par contre, l'hydratation, on est bien d'accord, ça c'est beaucoup plus jeune.
Est-ce que vous avez déjà eu des patients qui sont venus vous voir après avoir eu des mauvaises expériences, après des skincare qu'ils ont vus, etc.
Ah mais oui, beaucoup. Et puis beaucoup de patients aussi qui arrivent en disant bah, « j'ai mis c'est bio sur la peau, donc c'est bon pour la peau, mais attendez, c'est peut-être bon pour l'environnement, mais c'est pas forcément bon pour votre peau, avec des réactions importantes. » Donc oui, des irritations, des eczémas, voilà, des patientes qui font trop de gommage, des patientes qui vont suivre à la lettre telle influenceuse et qui finalement vont se retrouver avec une peau trop réactive et qui vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir par la suite.
Parce que toutes nos peaux sont différentes en fait. Ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour quelqu'un
Exactement.
D'autre.
Exactement.
L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un slogan.
L'Oréal, parce que je le vaux bien.
L'Oréal, parce que je le vaux bien. Une phrase traduite en plus de 40 langues, devenue l'emblème des publicités de la marque de cosmétiques française. Elle a été inventée en 1971 dans les bureaux d'une agence de pub new-yorkaise. Une jeune rédactrice publicitaire de 23 ans, Aylon Specht, planche sur une nouvelle campagne pour L'Oréal. Le produit à promouvoir, c'est une coloration capillaire plus chère que toutes les autres, baptisées préférence. Et à l'époque, les publicités qui s'adressent aux femmes sont écrites par des hommes, réalisées par des hommes, marketées par des hommes. Résultat, les femmes sont souvent sexualisées ou réduites à leur genre. Aylon Specht, elle a 23 ans et elle veut mettre un coup de pied dans cette fourmilière aux tendances sexistes. Elle prend la parole en réunion en proposant ce slogan « Because I'm worth it », parce que je le vaux bien. Une phrase qui a l'air de rien, mais qui est tout de même assez puissante, revendicatrice et féministe. Problème, ses collègues masculins ne sont pas convaincus. Eux, ils veulent une pub avec une femme au bord d'une fenêtre, cheveux au vent, contemplée par son mari, une femme belle, silencieuse et docile. Mais Aylon Specht arrive à faire valider son idée de slogan par L'Oréal. Elle tourne la publicité avec la mannequin Joanne Dussault, un spot de 29 secondes où elle est filmée face caméra.
I don't mind spending more for L'Oréal because I'm worth it.
Ça ne me dérange pas de dépenser plus pour L'Oréal parce que je le vaux bien. Pas de mise en scène sexy, pas de séduction, pas d'homme surtout. Cette pub est sobre, revendique la confiance en soi de la femme et son indépendance. Résultat, la coloration devient le produit numéro 1 du marché cette année-là et le slogan est repris dans toutes les publicités du groupe. C'est une révolution dans une décennie marquée par la pilule, les mouvements de libération des femmes et la remise en question du patriarcat. Une marque de cosmétiques fait dire à ses consommatrices qu'elles ont la valeur, pas parce qu'elles plaisent, mais parce qu'elles existent.
Merci Manon. Séverine Lafay, oui, c'est vrai qu'il y a une dimension, peut-être qu'effectivement appliquer trop de crème, c'est pas efficace, mais comme on disait aussi dans cette émission, il y a un moment, c'est un moment pour nous qu'on se garde, c'est un soin cocooning, comme on dit, même si ça fonctionne pas d'un point de vue scientifique, peut-être dermatologique, ça crée quelque chose de psychologiquement agréable.
Ah non, alors j'ai pas dit que ça fonctionnait pas. Ça fonctionne tout à fait. Ce que je dis simplement, c'est que c'est pas
donc
forcément
ça sert à rien d'en mettre 10
nécessaire
ou 15
d'en
crème,
mettre 15.
Quoi,
ouais. Voilà. Maintenant, effectivement, moi, c'est ce que je dis toujours à mes patients. Ce qui va marcher, c'est ce que vous allez avoir plaisir à faire chaque jour. Et quand vous avez plaisir à faire quelque chose chaque jour,
ça,
finalement, voilà, ça s'appelle effectivement une routine. Et en fait, le fait de faire ce geste tous les jours, et comme ça vous confère un bien-être, eh bien, finalement, vous allez apporter un mieux à votre peau.
Bonjour Marine Leonardi.
Bonjour Mathieu.
Enfin, vous avez quand même une peau magnifique, je dois dire.
J'aimerais pouvoir en dire autant de vous, Mathieu.
La chronique de Marine Leonardi, c'est juste après Alani, Something You Said, sur Inter.
Something you said the other night made me believe.
I look at you in a sense.
something you said. Now should we change, make an affair? I wouldn't want to spoil our friendship. How will we know? Simple kiss can be so telling. I care for you, and you care for me. Shouldn't we be perfect together? This kind of loving don't need no kissing.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Marine Leonardi, après avoir longtemps pesté contre les sujets de cette émission, je vous cite des sujets de merde, enfin, vous saluez notre choix éditorial, le skincare, le sujet vous a ému.
Ah oui, non mais là je suis émue, déjà parce que ça n'aura pas échappé à notre invité qu'il était temps de faire cette émission. Hein. Tout le monde ici n'a pas une skincare routine matin et soir, ce n'est pas pour rien que Mathieu et Cyril portent une barbe et Manon de la moustache.
Hein. La même que toi.
C'est sûr, et les autres feraient mieux de se la laisser pousser, mais bon, Pierre n'y arrive pas. C'est gentil. En tout cas, Séverine Lavaille, de venir faire de la pédagogie, en plus dermato-esthétique. Non mais alors vous passez une heure chez France Inter, c'est quand même 500 euros de chiffre d'affaires en moins. Alors, et ne pensez pas que vous allez gratter des nouveaux clients avec cette émission. Cyril pense qu'acheter une crème hydratante, c'est pédé, et nos auditeurs sont tous pauvres et vivent en Lozère. Voilà. Le seul qui a du pouvoir d'achat ici, je vous le dis, c'est Mathieu, mais bon, vous n'allez pas mettre du SPF 50 à un gars qui vit dans les sous-sols de Radio France. Je pense en revanche que vous aurez remarqué que je suis adepte du skin depuis longtemps. Mon dermatologue m'a même parlé de sperme de saumon récemment, comme quoi passer 35 ans, hein, il faut payer pour se prendre une faciale. Oh. De poisson qui plus est, mais bon, pourquoi pas. Je vais vous dire, moi, si ça me rajeunit, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci, je suis prête à tout. Alors, peut-être pas à manger ma skincare. Hein, cette nouvelle tendance où le soin se mange plutôt qu'il ne s'étale. On dirait un titre de film porno. J'ai du mal à adhérer à cette tendance parce que, bon, bah, mon déjeuner typique, si vous voulez, c'est la cantine de France Inter. Voilà. Donc, quand ton dessert s'appelle Maminova et que tu déjeunes à côté de François Rollin, bon. Hein, voilà, disons que ça sent plus les pâtes que le défilé Victoria's Secret. Le phénomène skincare prend tellement d'ampleur que maintenant les enfants font leur anniversaire chez Sephora. Alors les gens s'offusquent, mais bon, nous gamins, on faisait quand même notre anniversaire chez McDo, je rappelle. Hein, on désinguait 12 burgers à l'huile de vidange avant de se faire courser dans des boules par un faux Ronald McDonald. Certainement un pédophile en cavale, pendant que nos parents fumaient un paquet de Gaulois sans fil sur le parking. Bon, bah, je peux te dire qu'à l'adolescence, si tu faisais pas une crise d'acné, c'est que t'avais jamais fêté son anniv ou que t'avais pas de potes. Voilà. Étonnant que la courade ait une très belle peau. Ensuite, on nous foutait sous roi Cutane pendant 8 ans. On disait non, mais t'inquiète, c'est safe. Et après, tu devais signer une décharge pour promettre que tu avortais si tu tombais enceinte. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Parce que ton gamin. C'est vrai, le roi Cutane, tu signais une décharge pour dire que t'avortais si tu tombais enceinte. Parce que sinon, le gamin, il naissait avec trois bras et un œil unique au milieu du front, je te jure. Et en même temps, qui a envie de tringler une meuf qui a la peau brûlée au troisième degré et qui pèle des sourcils, bah, je peux te dire que quand je sortais en boîte, mon père, il était rassuré. Je rentrais en octilé à 4h du mat, les gens pensaient que j'étais la folle du bus. Voilà. Nul besoin de préciser que ça a bien changé aujourd'hui. Allez, j'enchaîne. Non mais franchement, mais quand je lis dans la doc de l'émission que des gamines de 12 ans s'achètent de la crème anti-rides alors que mon mari, il se lave cheveux, visage et corps avec un seul et unique produit, mon après-shampoing spécial boucle. Alors attention, pas celui à 3 balles que t'achètes chez Normal. Non, non, celui à 34 euros de chez Aesop où toi t'en mets une gouttelette au fond de la paume de la main. Tu trembles en t'en mettant alors qu'il s'en étale sur tout le corps, hein, comme s'il était une tartine de Nutos. Après, vu qu'il a plus de cheveux finalement dans le dos que sur la tête, ça a du sens aussi. Ah non mais je peux dire qu'il a une entre
entrejambes, il a des boucles californiennes, il ne se pose aucune question. Il se dit que c'est normal. Non, mais je sais, parce que je l'ai vu envisager mon Dyson hier matin. Non, mais après, on peut quand même se demander si la tendance de la perfect skin n'est pas une énième dictature déguisée, hein, qui va finalement à l'encontre du body positivisme. Après tout, on fait bien ce qu'on veut de nos rides et de nos boutons. Et comme dirait ma mère ou Miss France, oui aux injections, non aux injonctions.
Merci Marine Léonardi et merci à la voltigeuse à chat Alicia Vulot qui a réalisé ce best-of. On se donne rendez-vous lundi à 16h pour parler de l'effet Mathilda quand les femmes se font effacer des découvertes scientifiques. À lundi. À suivre, La Balade avec Vincent Josse. Bonjour Vincent, qui est votre invité aujourd'hui ?
La Balade, Mathieu, c'est en compagnie d'Adamo.
Zoom Zoom Zen.